RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie. Et ensuite, vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'arbre suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons également présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les nouvelles de l'Indonésie.
Ces auditeurs et auditrices du monde entier, voici les journaux aujourd'hui. Un titre, TEN y continue d'accroître le professionnalisme et le bien-être de son personnel. L'Indonésie approfondit son partenariat avec le Japon. Voici le bulletin complet. Le ministre indonésien de la Défense a tenu une réunion des dirigeants 2018 avec le commandant en chef de TNI et le chef d'état-major de TNI au ministère de la Défense à Jakarta jeudi. Le commandant-chef de TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, dans la conférence de presse après la réunion des dirigeants, a affirmé qu'à cette réunion, il avait discuté de la planification stratégique et divers problèmes à trouver les solutions des problèmes existants et à l'avenir. Nous restons en ligne avec la politique, à savoir l'augmentation du professionnalisme et du bien-être des soldats. C'est le but, augmenter le professionnalisme des soldats et de construire la force qui peut être mise en œuvre avec l'industrie nationale, avec l'entreprise appartenant à l'État et peut également être fait les industries nationales et l'entreprise appartenant à l'État qui est l'industrie stratégique et aussi avec le transfert technologique avec la production étrangère. Conformément au deuxième programme de plan stratégique 2014-2019, il y a plusieurs équipements principaux du système d'armement qui vont progressivement répondre aux besoins des trois dimensions à TNI. Le maréchal Hadi Cahyanto a expliqué lors de la réunion des dirigeants du ministère de la Défense 2018, il avait également discuté de l'augmentation de la capacité des soldats de TNI à être professionnels en renforçant l'éducation et la formation. Selon le commandant en chef TNI, l'objectif d'améliorer le professionnalisme des soldats de TNI est de leur permettre d'exercer la fonction comme dissuasion, de poursuite et de restauration et capable de mener bien les principales tâches, à savoir garder la souveraineté et l'intégrité de toute la nation indonésienne. En outre, ils ont également discuté du plan de TNI pour construire 7000 maisons officielles décentes pour les soldats. L'Indonésie s'efforce à approfondir le partenariat avec le Japon qui dure depuis 60 ans en invitant plus d'investisseurs japonais dans le pays. L'élan des 60 ans de partenariat entre l'Indonésie et le Japon est maximisé pour les projets d'investissement japonais en cours en Indonésie. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur d'investissement du président indonésien au Japon, Rahmat Gobel, dans la discussion sur créer la stratégie politique pour renforcer la structure de l'économie vers la croissance de 7 à 8% par an, comment les opportunités et potentiels de PME à Jakarta. Selon Rahmat Gobel, sa partie présentera quelques recommandations au gouvernement concernant la coopération entre les deux pays, compte tenu le partenariat économique Indonésie-Japon, IGEPA, est toujours en négociation. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, et Zhu Xiaochuan, gouverneur de la Banque centrale de Chine, ont signé un accord sur la création d'un bureau de représentation de Banque Indonésie à Pékin, en Chine. Agus Martowardoyo, à travers une déclaration écrite à Jakarta vendredi, a déclaré que cet accord était un suivi important de la coopération bilatérale entre les deux banques centrales. Cela correspond également à l'importance croissante du rôle de la Chine dans les économies mondiales et régionales, y compris en Indonésie. Agus Martowardoyo a confirmé que l'existence du bureau de représentation de Banque Indonésie-Pékin pourrait optimiser les relations économiques et financières entre les deux pays et améliorer la compréhension des développements et des politiques économiques et financières en Chine et ses effets pour l'Indonésie. L'Agence nationale de la planification du développement, BAPENAS, et la consultante espagnole de la planification urbaine et régionale, Fundación Metrópoli, coopèrent pour développer 10 nouvelles destinations touristiques en Indonésie. Leur coopération est réalisée par la signature d'un mémorandum d'accord sur les solutions communes, urbaines et territoriales durables en Indonésie par le ministre de la Planification du Développement National, en tant également le chef de BAPENAS, Bambang PS Brojonegoro, avec le fondateur et président d'honneur de la Fondation Metropoli, Alfonso Vergara. Après la signature jeudi à Jakarta, Bambang Brojonegoro a déclaré que le président Joko Widodo a souligné l'importance de la planification régionale. Le président veut qu'au début de la planification régionale, BAPENAS fait une cartographie globale et de classe mondiale. Bambang Brojonegoro espère que la Fondation Metropoli aide l'Indonésie à créer 10 nouvelles zones touristiques qui attirent les touristes étrangers en Indonésie. Pour cela, il va commencer avec Bintan, les îles de Riau. Le directeur général de la pêche de capture du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Sharif Wijaya, a déclaré que la noyade de bateaux du vol de pêche qui a été fait jusqu'à présent a également augmenté les stocks de poissons dans les eaux nationales. Sharif Wijaya a déclaré jeudi à Jakarta que le départ de navires étrangers a fait l'augmentation du stock de poissons de 6,5 millions de tonnes en 2011 à 9,9 millions de tonnes. Ce calcul provient des activités de l'évaluation des stocks menées tout au long de l'année 2016 avec la couverture territoriale de 11 zones de gestion des pêches. Selon lui, l'augmentation du stock de poissons encourage également optimisme pour les pêcheurs à aller en mer. Plus tôt, le président Joko Widodo à Jakarta mercredi a déclaré que la politique de noyade des navires étrangers qui pratiquent la pêche illégale dans les eaux indonésiennes est un effort d'application de la loi. Le président a confirmé que cela a été fait pour fournir un effet dissuasif aux contrevenants dans le domaine des pêches de capture. Le dernier, la croissance de la valeur des exportations des produits de la pêche indonésien au cours de la période 2010 à 2016 a dépassé des pays concurrents, y compris la Chine. Sur la base des données du Centre de commerce international CCI, les exportations indonésiennes des produits de la pêche ont augmenté en moyenne de 2,31% par an pendant cette période. Au cours de la même période, la croissance des exportations chinoises n'a augmenté que 2,29% par an et celle du Vietnam de 1,45% par an. Pendant ce temps, les exportations des produits de la pêche de la Malaisie ont diminué de 3,5% par an et la Thaïlande a diminué de 7,7% par an. Nilando Perbovo, directeur général du renforcement de la compétitivité des produits de la mer et de la pêche, a déclaré que par rapport à plusieurs pays concurrents, la croissance de la valeur des exportations indonésiennes est plus élevée. Nilando Perbovo a expliqué que les principaux produits d'exportation de l'Indonésie l'année dernière étaient la crevette, les thon thon kol cakalang, les crabes, les poulpes et les algues. Les principaux pays d'exportation des produits de la pêche en Indonésie sont les États-Unis, le Japon, l'ASEAN, la Chine et l'Union européenne. C'est sur l'Itauditis, c'était notre journal aujourd'hui.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de divers infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Yogyakarta. Le mercredi dernier, le gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, a inauguré la route reliant Gunung Kidul à Sleman. La connexion de route qui comprend le pont Sembada Handayani le long de 90 mètres par 9 mètres de large, les routes le long d'un kilomètre de Sleman, précisément au village Lemah Abang, village Gayam Harjo, Prambanan et les routes le long d'un 3 kilomètres du Gunung Kidul, précisément au village Gembiong, village Ngoro-Oro, Patuk. Selon Sultan, le gouvernement provincial de Yogyakarta prévoit de poursuivre la construction de la route de liaison pour relier l'accès de Prambanan à Gading. Le régent de Gunung Kidul, Baningah, a déclaré « Les arrivées de touristes ne cessent d'augmenter. Il pourrait stimuler l'économie des habitants de Gunung Kidul. » Cependant, au cours de cet effort pour augmenter cette visite contrainte par des roues étroites et les embouteillages fréquents au week-end. Pendant ce temps, le régent de Sleman, Sri Purnomo, a admis que la construction de ponts et de routes peut augmenter les visites d'attractions telles que les falaises Breksi, le temple Ijo, Lava Banta et un certain nombre d'autres sites touristique. La promotion créative va attirer l'attention de nombreuses personnes. C'est ce que le gouvernement du district Trenggalek fait à introduire le processus de licence d'entreprise facile et rapide. Une galerie de micro, petites et moyennes entreprises, MPME, se trouve au rez-de-chaussée du bureau d'investissement et du service intégré d'une porte de Trenggalek. La disponibilité de la galerie est l'une des stratégies à présenter à la communauté en rapport avec le processus de licence rapide à Trenggalek. Il a été dit par le directeur général du département de l'investissement et du service intégré d'une porte de Trenggalek, Mulia Handaka, récemment. Selon Mulia, une explication détaillée de la facilité de manipulation du permis permettra également de sensibiliser à la gestion de la licence d'entreprise. Divers produits de MPME sont exposés dans la galerie. À partir de la nourriture originale de Trenggalek à divers aliments prêtés qui sont emballés à la façon intéressante. La dernière info vient de Batang, Java Central. Le gouvernement de la région Batang, Java Central a accordé une superficie de 9,5 hectares à l'Université Diponegoro Semarang pour l'établissement de la faculté d'agriculture et d'élevage. Le régent de Batang, Wihaji, Mekedia Batang a déclaré que le gouvernement du district a rencontré l'Université Diponegoro Semarang comme une forme de communication initiale avant d'accorder une superficie de 9,5 hectares au village Tumbrep, sous-district Bandar. Wihaji a déclaré que selon la loi, le processus de subvention doit être approuvé par la Chambre des représentants locaux, DPRD. Cependant, le président du conseil législatif de la région Batang, Imam Teguh Raharjo, a promis que le DPRD accordera la priorité à la concession de terres pour le développement de la faculté d'éducation. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 13 janvier. Le 13 janvier 1941, les pays alliés de la Seconde Guerre mondiale se sont rencontrés à Londres. La conférence qui a été initiée par le premier ministre britannique Winston Churchill a été organisée dans le but de rassembler les politiques des pays alliés d'envisager l'Allemagne et l'Italie. Des représentants des Pays-Bas, de la Belgique, de la France, de la Grèce, de la Norvège, du Luxembourg, du Danemark et de l'Angleterre ont assisté à la conférence. Le 13 janvier 1942, Henry Ford a breveté une voiture en plastique. Henry Ford est le fondateur de Ford Motor Company et est considéré comme le créateur de la classe moyenne dans la société américaine. La première voiture en plastique a été lancée par Henry Ford à Dearborn. La voiture est une manifestation de son rêve d'utiliser les cultures agricoles comme matière première pour les voitures. La voiture est faite de plastique à base de soja principal et de diluant jusqu'à 33% des constructeurs automobiles ordinaires. Le plastique est un matériau relativement nouveau à cette époque et est le résultat de la révolution industrielle aux États-Unis. Un chimiste, Robert Allen Boyer, a essayé de développer cette pensée. Le 13 janvier 1985, l'accident de train en Éthiopie. Un train transportant environ 500 passagers a heurté une falaise dans la région éthiopienne. L'incident s'est produit parce que la roue du train a glissé, provoquant la chute de 5 voitures. Pire encore, le train qui accélère a aussi souffert de freinage ne fonctionne pas, donc heurte la falaise et tombe dans l'abîme. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et en pot titre, l'industrie du meuble d'Indonésie participe à l'exposition IMM Cologne 2018. 10 industries nationales du meuble suivent la plus grande exposition en Europe internationale, Mobilmesse, IMM Cologne 2018. Le secrétaire général de l'Association indonésienne de l'industrie du meuble et de l'artisanat, HIMKI, Abdul Sobur, a dit mercredi à Jakarta que la participation à l'exposition vise à stimuler l'exportation de meubles ciblés pour atteindre 5 milliards de dollars américains jusqu'à la fin de 2019. L'exposition qui s'est tenue du 15 au 21 janvier 2018 à la ville Köln en Allemagne est suivie par 1361 participants de 51 pays. Sobur a reconnu que l'attraction d'IMM Cologne ne peut pas être refusée. Des entrepreneurs de meubles indonésiens ont aussi participé à cette exposition de 2011 à 2016 sous les auspices de l'Association indonésienne du meuble et de l'artisanat, AMCRI, et en 2017 sous les auspices de HIMKI. En plus de promouvoir les produits de meubles nationaux sur le marché mondial, HIMKI veut également trouver des acheteurs potentiels qui ont le potentiel de passer des commandes, que ce soit dans un an, deux ans, à venir ou à long terme. Sobur a déclaré qu'ils veulent construire un réseau d'affaires au niveau international. De l'exposition, HIMKI vise un revenu de 200 millions de dollars américains provenant des transactions sur place et le suivi des commandes d'un an pour le marché européen. Les entrepreneurs de meubles incorporés à HIMKI sont optimistes pour atteindre l'objectif des exportations de meubles et d'artisanat de 5 milliards de dollars américains jusqu'à la fin de 2019. Le secrétaire général de HIMKI, Abdul Sobur, a déclaré que leur optimisme était basé sur la dérégulation et le soutien du gouvernement. Une partie du soutien du gouvernement est, entre autres, les subventions d'achat pour l'industrie du meuble et de l'artisanat de 25% cette année, bien que le montant de sa valeur n'ait pas été soumis. Selon Sobur, cette subvention est capable de stimuler le rajeunissement de la machine afin que le processus de production de meubles et de l'artisanat peut être plus efficace. La construction d'une école professionnelle avec spécialisation en meubles à Kendal, Java Central, est censée être capable de supporter la productivité de l'industrie, même si elle ne peut se faire sentir que quelques années prochaines. Sobur croit que les ressources humaines qu'elle produit augmenteront la compétitivité et la productivité. Outre dans l'exposition IMM Cologne 2018, les membres de HIMKI participent aussi aux expositions internationales du meuble aux États-Unis et en Chine. Jusqu'en 2016, la valeur des exportations indonésiennes de meubles atteignait 1,6 milliard de dollars américains et la valeur des exportations de produits artisanaux atteignait 820 millions de dollars américains. HIMKI a prédit cette année il y a une augmentation d'environ 6 à 7% pour la valeur d'exportation du mobilier et de l'artisanat. Pour HIMKI, le plus important est de savoir comment l'industrie nationale du meuble et de l'artisanat sont de plus en plus compétitifs dans le monde international. Cependant, en tant que fondateur de l'industrie, le ministère de l'industrie s'efforce à continuer de stimuler le développement de l'industrie du meuble en tant que secteur à forte intensité de main-d'œuvre est orienté vers l'exportation. Selon le directeur général d'agro-industrie au ministère de l'Industrie, Pangah Susanto, l'industrie du meuble devrait être un secteur national de la fierté, car elle a le pouvoir d'être compétitif au niveau mondial. En outre, la majorité ou presque 85% des matières premières telles que le rotin est fournie à l'intérieur du pays. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici un magazine culturel intitulé Air Putih, la destination touristique dans la province de Bengkulu.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
La destination touristique de Air Putih Lebong est située dans le village de Air Putih, la région de Lebong, la province de Bengkulu. Elle peut être un tourisme alternatif pour vous. Ce site touristique est appelé Air Putih ou en français l'eau blanche. Son nom est l'eau blanche, non pas parce que l'eau est blanche comme le lait, mais parce que les eaux sont très claires. L'unicité de cette destination touristique est une combinaison entre l'eau froide et l'eau chaude qui coule dans une rivière. L'eau qui est très froide et fraîche coule directement de la source au mont Semelaku entre le long de la rivière Air Putih. De la surface de l'eau, vous pouvez voir des roches de différentes tailles au fond de la rivière. Autour de la rivière est un cœur rempli des arbres verts. Vous pouvez nager sans souci exposé au soleil. Une rangée d'arbres verdoyantes, l'air frais donne du plaisir aux visiteurs. La région de Lebong, qui est située dans les montagnes, est entourée des vallées. L'air dans ce lieu touristique est très cool avec une belle région. Il y a aussi quelques gazebos que les visiteurs peuvent utiliser pour se reposer. Concernant la nourriture, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a aussi des stands qui offrent des collations et des boissons. Pour visiter la destination touristique de Air Putih Lebong, vous pouvez passer par deux voies. La première ligne est de Bengkulu Nord, passe par le district de Giri Mulia avec une voie des plantations de café le long de la route. La deuxième alternative passe par Curup à Muara Amandengan et vous traverserez le lac de Tes. Du centre-ville de la région, ce site touristique prend seulement environ 30 minutes. Comme mentionné ci-dessous, il y a un site touristique l'eau chaude au même endroit. Les bords de la rivière de Air Putih sont remplis d'énormes rochers de montagne, alors que les gros rochers peuvent exposer la chaleur. Et d'habitude, les touristes y en apportant des œufs crus à bouillir sur les rives de la rivière. Habituellement, après une baignade fatiguée dans la rivière froide, vous pouvez immédiatement manger des œufs bouillis. Chers amis, c'était la rubrique Magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec l'Indonésie en couleurs. Chariot, pour certaines personnes en Indonésie, est connu comme un lieu de commerce. Le chariot, selon le grand dictionnaire de la langue indonésienne, est une boîte à 2, 3 ou 4 roues pour transporter quelque chose qui est tiré ou poussé par des humains ou des animaux. Ce soir, nous discutons sur la bibliothèque qui utilise le chariot comme outil pour stocker des livres et des magazines. Partant de l'inquiétude suscitée par le déclin de l'alphabétisation indonésienne à l'échelle mondiale, le groupe de discussion Melandingan a organisé le concept de chariot de lire en janvier 2016, portant le concept de bibliothèque mobile sous forme de voiturettes placées dans des espaces publics. Ils invitent la communauté d'aimer à lire. Selon Vidiantoro, le fondateur du chariot de lire, il a choisi le chariot en considérant que sa forme est simple et humaniste pour placer des livres et des magazines. Pour la première fois, il a été présenté au public le dimanche au parc Tirto Agung, Banyumanik, Semarang, Java Central. Vidiantoro a expliqué, l'élection de dimanche parce que dimanche est un jour de famille. Ce jour-là, en général, beaucoup de gens se rassemblent et se détendent dans certains parcs, comme une forme d'appréciation de la Journée mondiale d'alphabétisation, le 8 septembre 2016, puis le 11 septembre 2016, Gerobak Baca, soit le chariot de lire, est officiellement présenté aux gens de Semarang. La cérémonie d'ouverture a été animée avec des activités intéressantes telles que la compétition de coloriage. Comme en bibliothèque, tout le monde peut emprunter et lire des livres. La différence est le livre doit être retourné le même jour. C'est pour anticiper que le livre n'est pas perdu, ainsi qu'éduquer l'emprunteur pour être responsable. En outre, parce que le livre ne peut pas être ramené à la maison, il y a donc une raison de revenir à lire. Il y a une destination unique pour les membres de la communauté du chariot de lire, les conducteurs du chariot. Non sans obstacle, cette communauté de lecture a des contraintes sur le météo. Parce que le concept d'une bibliothèque ouverte, s'il pleut, les activités de la bibliothèque sont arrêtées ou abolies. Ayant une collection plus de 8000 livres, une fois tous les 3 mois, les livres seront tournés à partir de chaque point de lecture, de sorte que le public n'est pas saturé. Non seulement ils présentent des livres de lecture, mais ces communautés organisent souvent de petits événements qui invitent d'autres communautés à se joindre chaque semaine. Ils visent à accroître les connaissances ainsi qu'attirer les citoyens qui viennent. On espère que le chariot de lire puisse mobiliser la communauté pour qu'elle se préoccupe davantage des problèmes d'alphabétisation, y compris en augmentant l'intérêt de la communauté à lire. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chères auditrices et auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente des musiques indonésiennes, soit traditionnelles, soit modernes. Ce soir, nous vous présentons un chanteur talentueux de l'Indonésie qui s'appelle Afgan Shahreza, ou plus connu avec le nom Afgan. Bon, pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Afgan, intitulée « Merci, amour ».
Setelah jauh melangkah, cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, takkan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Irnésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson chantée par Afgan intitulée « Merci Amour ». Ce chanteur est né à Jakarta le 27 mai 1989. Depuis son enfance, il est déjà familier avec la musique parce que sa famille aime bien la musique. Bon, Jérémy, écoutons maintenant notre chanson intitulée Knock Me Out.
I wanna love you, girl.
Vous écoutez toujours la voix de l'Irnésie diffusée depuis Jakarta dans la rubrique magazine musical. Et vous êtes en train d'écouter le programme musical chanté par Afghan. Jusqu'à présent, il a sorti 4 albums, un mini-album et une douzaine de singles. Presque tout a toujours été un succès sur les cartes de radio et télévision de l'Irnésie. Afghan a remporté divers prix pour ses talents de chanteur. Il collabore assez souvent avec d'autres musiciens. Sa dernière collaboration dans une chanson intitulée X, sortie en 2017. Cette fois, il a collaboré avec un musicien de la Malaisie qui s'appelle Sonawan. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, écoutons maintenant les deux dernières chansons. Intitulé Ex et Clé du cœur, chanté par Afghan. Merci à tous et à bientôt. What the hell?
jari manismu terdiam ingin menggila. Saat ku mencoba menghapus semua rasa yang pernah ada, kau datang di hadapanku. Hati ini tak siap untuk terima adanya. Berkata-kata kau lah yang selalu di benakku.
Chance I would have stayed with you, plan a life together, find a place to run away with you. Don't get me wrong, girl, I'm happy for you, but if I had it my way, I'd be the man to hold you. And I would run up to your boy and tell the lucky bumper clock to never let you go, but it's better if he never knows. I'm such an idiot, I admit I might have made the wrong decision. You would feel the same if you was in my position. Things I could have changed and I should have changed them with you. Nothing but the best is what I wish you.
I wish I could turn back time. I don't want to say goodbye. I wish I could turn back time. Say goodbye. I don't ever wanna say goodbye.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
bertegun lamun dan ku melihatmu tulus senyumanmu sejenak tenangkan hatiku yang telah lama tak menentu rasa sepi yang telah sekian lama di ruang hati yang kosong perlahan-lahan sirna bersama hangatnya kasihmu yang buatku percaya lagi dan ku akui hanyalah dirimu yang bisa segala sudut pandang gila yang ku rasakan tentang cinta yang selama ini menutup pintu hatiku yang kini telah kau buka
yang telah kau
I can't
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.